VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes Sahel Plus avec Claire Morin-Gibeau, mais tout d'abord le journal. Au Mali, situation tendue à Kidal dans le nord du pays. Un chef des anciens rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, demande aujourd'hui le départ de cet ex-bastion des rebelles, des éléments d'un groupe armé pro-gouvernemental arrivé en mars la veille. Après une réunion de la CMA ce mercredi, Algabas Ag Intala, chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HCUA, une des principales composantes de la CMA, a dit à l'AFP que la coalition ex-rebelle réclame le retrait du Gatia, le groupe pro-gouvernemental d'autodéfense Touareg, Ingad et alliés de Kidal. C'est vrai que le Gatia devait arriver, mais pas comme ça, a souligné le chef du HCUA, faisant référence au fait que les éléments du Gatia sont entrés à Kidal avec des armes. Cour pénale internationale de la Haye aux Pays-Bas, déposition du premier témoin en charge aujourd'hui au procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé. Ce témoin a un pseudonyme et on le désigne par le numéro 547. La CPI a rendu son visage flou et déforme sa voix pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Le témoin en charge a décrit comment les partisans de l'ancien président ivoirien avaient tiré dans la foule lors d'une marche des supporters de son rival, l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Selon l'accusation, les éléments sous le contrôle de Laurent Gbagbo ont ouvert le feu sur ces manifestants non armés, provoquant la mort d'au moins 45 personnes. Ils auraient également violé 16 femmes et blessé 54 personnes, affirme le procureur. Au Bénin, 20 cas suspects de fièvre de Lassa ont été répertoriés par le ministère de la Santé dans le centre du pays, dont 9 décès. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Le premier cas a été signalé le 5 janvier à Saint-Martin de Papané, dans la commune de Tchaourou, au nord de Cotonou. Unité d'isolement a été mise en place. Des personnes étant entrées en contact avec des malades sont en cours d'enregistrement. Des stocks de ribavirine, le médicament contre cette maladie, ont été acheminés de Cotonou. L'épidémie de fièvre Lassa en cours dans 17 États du Nigeria voisin a déjà fait 84 morts sur 168 cas suspects. Cette maladie peut provoquer de graves atteintes hémorragiques ou neurologiques et se transmet par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On passe à l'Afrique centrale, RDC, le procès de l'ancien chef de guerre Germain Katanga, récemment libéré par la Cour pénale internationale, s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Ses 5 co-accusés et lui sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. John Lyndon.
Accompagné d'autres officiers et sous-officiers membres de sa milice des forces de résistance patriotique en Ituri, les FRPI, Germain Katanga, souriant et très détendu, a chaleureusement salué certains officiers présents dans la salle d'audience et a échangé avec ses avocats. Surnommé Simba, lion en Swahili, pour sa férocité lorsqu'il était à la tête des FRPI, M. Katanga, 37 ans, a été condamné par la CPI en 2014 à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village ayant fait environ 200 morts en 2003. Transféré à Kinshasa en décembre, il devait sortir de prison le 18 janvier, compte tenu du temps passé derrière les barreaux en préventive et de la remise de peine que lui avait accordée en novembre la CPI, conformément à son règlement. Ce même jour, les autorités congolaises avaient indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été engagées contre lui.
Au Burundi, 3 grenades ont explosé aujourd'hui à la mi-journée en plein centre de Bujumbura, la capitale. Au moins 8 personnes ont été blessées et les forces de sécurité ont procédé à 2 arrestations, a déclaré le porte-parole de la police. Parmi les sites visés, les bureaux de la poste et des télécommunications. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Sur l'avenue Patrice Lumumba, au niveau de la poste centrale de Bujumbura, plusieurs policiers militaires armés jusqu'aux dents quadrillent un petit périmètre où une grenade a explosé ce mercredi près de la société des télécommunications Lumitel. Plusieurs curieux sont tenus à l'écart, mais la tension est palpable. Une voiture de marque Hilux vient de transporter 4 blessés par une grenade qui a explosé sur les vitres de la société des télécommunications Lumitel. D'après les témoignages de la police sur place, le ou les malfaiteurs auraient lancé des grenades à partir du du bâtiment abritant la société Lumitel, une information a confirmé. Mais au moment où les policiers étaient en train de chercher les criminels, une autre grenade a été lancée à une centaine de mètres plus loin, près du parking des véhicules de transport vers le sud de la capitale, créant une panique au sein de la population. Ces derniers jours, le centre-ville était resté relativement calme, sauf des attaques sporadiques qui ont emporté des vies humaines dans les quartiers dits contestataires. Mais la peur s'est emparée de plusieurs habitants nationaux et ou étrangers à Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Toujours au Burundi, le ministère public a fait appel du verdict rendu dans le procès de la tentative de coup d'État des 13 et 14 mai 2015. Le procureur réclame la condamnation de l'ensemble des 28 accusés selon un communiqué du parquet burundais. Rappelons que la Cour suprême burundaise avait condamné le 15 janvier 4 généraux à la prison à vie pour avoir organisé le putsch, 9 officiers à 30 ans de prison pour y avoir pris part, 8 hommes de troupes à 5 ans et acquitté 7 personnes. Le chef de l'ex-rébellion au Soudan du Sud est en visite aujourd'hui en Égypte. Riek Machar souhaite l'implication du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé au mois d'août. Cet accord de paix est au point mort après la décision du président Salva Kiir de faire passer le nombre des régions à 28 et le rejet de cette décision par les rebelles. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a annoncé aujourd'hui qu'il était prêt à rembourser une partie de l'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Avec plus de 15 millions de dollars de fonds publics utilisés à des fins privées, c'est l'un des plus gros scandales de ces dernières années dans le pays. La décision du président intervient quelques jours avant le début d'une enquête de la Cour constitutionnelle sud-africaine. Saloua Jafari.
Jacob Zuma cède à la pression. Il s'est dit prêt, dans un communiqué, à rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Un scandale qui empoisonne sa présidence depuis plus de 2 ans. Zuma propose toutefois que le montant qu'il doit rembourser soit fixé de manière indépendante et impartiale. Le scandale dit de Nkandla, du nom du petit village où se trouve la propriété du président, a véritablement entaché son parcours à tel point qu'il ne peut plus apparaître au Parlement sans que certains députés ne lui demandent de rendre l'argent. Sous couvert de travaux de sécurité, le président s'est offert un poulailler, un amphithéâtre ou encore une piscine aux frais du contribuable. L'affaire a pris de l'ampleur en 2014 lorsque la médiatrice de la République chargée de veiller sur l'utilisation des biens de l'État a rendu un rapport accusant Jacob Zuma d'avoir indûment bénéficié des travaux.
On passe maintenant à l'actualité américaine. Pour la première fois depuis qu'il est président des États-Unis, Barack Obama va visiter une mosquée sur le territoire américain. Ce sera dans la ville de Baltimore, État du Maryland. Selon la Maison-Blanche, cette visite est dans l'esprit de la protection de la tradition de la liberté religieuse dans le pays. Le point avec Miley Segal.
Pendant ses 7 années à la Maison-Blanche, Barack Obama a visité de nombreuses mosquées dans le monde, au Caire, à Istanbul, à Jakarta, mais jamais ici aux États-Unis. Aujourd'hui, pour la première fois, il rencontrera des musulmans américains de la Société islamique de Baltimore. C'est l'une des plus grosses organisations musulmanes du pays. Des milliers de familles sont affiliées à ce centre qui comprend des maisons, une mosquée et des écoles allant du jardin d'enfants au lycée. La visite du président Obama survient alors que le nombre de crimes islamophobes est en hausse aux États-Unis. Attaques contre des mosquées ou injures envers des musulmans. Une étude du CIAR, le Conseil des relations américano-islamiques, a montré que l'année 2015 a enregistré un record de crimes islamophobes. La communauté américaine musulmane est une minorité aux États-Unis. Il y aurait environ 3,3 millions de musulmans, soit 1% de la population.
L'actualité dans le reste du monde maintenant, la Tunisie est le pays qui a fourni le plus de combattants au groupe terroriste État islamique. Environ 3000 Tunisiens sont partis faire le djihad. Pour tenter d'endiguer le terrorisme, la ministre tunisienne de la Famille et de l'Enfance, Samira Miraille, a proposé la semaine dernière de fermer les jardins d'enfants coraniques qui ne bénéficient pas d'autorisation. Une proposition qui divise l'opinion tunisienne. Et pour terminer, 5 nouveaux cas de Zika en Irlande, cette maladie qui se manifeste principalement en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, peut provoquer chez les femmes enceintes des malformations congénitales graves, dont la microcéphalie, une malformation à la suite de laquelle les bébés naissent avec une petite tête. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.